Comme promis, on vous retrouve, Mathieu Vidard, en direct de la Cité des Sciences à Paris.
Voilà, Laetitia Gaillet, le compte à rebours a commencé. On va tous le vivre ensemble. Il y a beaucoup d'émotions autour de nous, ici et autour, évidemment, de Philae et de cette comète. C'est ce moment exceptionnel donc, que nous allons vivre tout au long de cette journée sur France Inter. À tout à l'heure, Laetitia.
La tête. Mission Rosetta.
67, Churyumov, Gerasimenko.
On se pose carré sur la comète.
3, 2, 1, top.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cet étau carré exceptionnel consacré à cet atterrissage inédit sur la comète Chury. Et bonjour au public de la Cité des Sciences, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous au niveau 1 de l'espace Forum pour vivre les toutes dernières heures maintenant, avant l'arrivée, si tout va bien évidemment, du robot Philae sur la comète. À événement exceptionnel, dispositif exceptionnel, puisque nous avons autour de nous ici à Paris, en duplex depuis l'Allemagne, les plus grands spécialistes français du système solaire et des comètes pour nous faire vivre et nous expliquer tous les aspects scientifiques liés à cette mission Rosetta. Sophie Bécherel est avec nous en duplex depuis Darmstadt en Allemagne. Bonjour Sophie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes au centre des opérations de l'ESA et vous êtes bien entourée. Vous nous présentez vos invités.
Oui, Jean-Pierre Bibring, responsable d'un des instruments, en l'occurrence la caméra Shiva. Il vous dira que nous attendons dans les minutes qui viennent son premier cliché, donc une étape majeure. Et Annie-Chantal Levasseur-Regour, une grande spécialiste des comètes, qui, elle, a travaillé sur les précédentes qui ont été visitées éventuellement par des sondes, celle-ci étant le bouquet final, puisqu'on n'a jamais été aussi près d'un objet céleste de ce genre.
À mes côtés ici à la Cité des Sciences, Claudie Nuret, astronaute et présidente d'Univers Sciences. Bonjour Claudie.
Bonjour.
André Braik est également avec nous, astrophysicien, professeur à l'Université Paris 7 d'Hydro, commissariat à l'énergie atomique à Saclay et membre des équipes scientifiques des missions Cassini et Voyager. Bonjour André Braik.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints. Vous avez pris un avion pour être pile à l'heure avec nous, on vous en remercie. Et puis bien sûr l'astrophysicien Francis Rocard. Bonjour Francis.
Bonjour.
Responsable des programmes d'exploration du système solaire au CNES. Mon camarade Philippe Hénarejos est là également.
Bonjour.
Journaliste scientifique de la revue Ciel et Espace, Florence Porcel, qui est là pour suivre vos tweets sur tous les réseaux sociaux enflammés. Hein,
oui, enflammés, je confirme. Bonjour.
Avec Rosetta. Et puis Aurélie Bordenave, que je salue, qui est là, magnifique, devant la Géode, pour ce live sketching, c'est-à-dire qu'elle va dessiner en direct, et elle le fait d'ailleurs depuis ce matin, ce que nous vivons autour de Philae. Lucie Sarfati, qui a préparé cette émission, reçoit tous vos messages, toutes vos questions pour nos invités sur le site de la Tête au Carré, franceinter.fr, et sur le hashtag l'attaque. Et puis dans le public ici également, bien sûr, vous pouvez également poser toutes vos questions. Nous avons des micros à votre disposition. On sera très heureux de vous entendre. C'est Violaine Ballet qui est aux commandes de notre module radiophonique.
La Tête au Carré, en direct de la Cité des Sciences, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Dans un peu moins de 3 heures, nous saurons donc si le robot Philae entre dans l'histoire spatiale en parvenant à se poser sur la comète 67P Churyumov-Gerasimenko, que nous appellerons Chury. Hein. Ce sera plus simple. Vous êtes d'accord, Francis Rocard,
oui,
cette appellation. Opération donc totalement inouïe. On est en train déjà, Francis Rocard, de vivre quelque chose d'assez hallucinant quand même, non?
Ah, on vit un moment exceptionnel, absolument. On n'avait jamais fait de rendez-vous avec une comète. On avait fait des survols, notamment la comète de Halley en 86. Ça a duré 10 heures. On était à 70 km par seconde. Et c'était très, très vite terminé. Et c'est suite à ce survol que les scientifiques, André y était probablement, se sont dit non, il faut faire plus maintenant. Il faut passer à l'étape suivante, le rendez-vous avec la comète.
Oui.
Et cerise sur le gâteau, on se pose dessus si on y arrive.
Voilà. Et je vous vois déjà tous avec le sourire. Ça fait extrêmement plaisir. Il y a vraiment quelque chose de très palpable. On le ressent dans le public, on le voit dans les médias. Et ici, à la Cité des Sciences, vous êtes arrivés, Francis Rocard et André Braik, avec la banane. Vraiment. Hein. Ça vous fait plaisir ce qui se passe aujourd'hui.
On est dans un schéma où tout est joué. C'est-à-dire que Philae a été largué, il tombe. Et advienne que pourra. De toute façon, tout a été fait avant. Donc maintenant, on est dans l'attente et c'est le moment le plus excitant.
Voilà, Claudie Nuret, quand on regarde la une des journaux aujourd'hui, vous rendez compte qu'une comète qui est à la une de toute la presse française.
Ah oui, quel bonheur d'avoir vraiment ces magnifiques exploits scientifiques à la une de la presse.
formidable et j'espère que le public va venir en profiter sur tous les sites qui accueillent ce moment fantastique. Ici, on attend 2000, 3000 personnes à la Cité des Sciences, à l'auditorium. On aura des scientifiques, des jeunes gens qui vont pouvoir poser des questions, interagir avec les scientifiques pour vivre cette merveilleuse aventure. Et je profite de ce que Francis a dit. Les comètes, ça nous connaît à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Mars 86, comète de Halley, la sonde Giotto, la première mission de l'ESA en exploration de l'espace lointain. C'est le jour de l'inauguration de la Cité des Sciences et de l'Industrie par le président François Mitterrand.
Sous le signe de la comète, effectivement. André Brahi, qui a cette joie, ce rêve là, qu'on partage tous.
Mais c'est extraordinaire. D'habitude, les journaux font des titres sur des footballeurs qui tirent des coups francs. Ils ne réussissent pas toujours. Eh bien, nous, on tire un coup franc parce qu'il n'y a pas de moteur et on réussit souvent. Et pourtant, on est moins payé que les footballeurs, mais ce qu'on fait est peut-être plus intéressant.
Oui, mais on ne sait pas si on va réussir encore.
De toute manière, on a déjà réussi.
Il y a quand même beaucoup d'inconnus sur
l'atterrissage. On a déjà réussi et on va en fin de partie tirer un coup franc. Et si en plus on tire le coup franc pendant les prolongations, ça sera extraordinaire. Oui. Et si jamais ça ne marchait pas complètement, on y retournera. Parce que je vous rappelle que la science, c'est le moyen de lutter contre le chômage et la violence. Ce que nous vivons aujourd'hui est extraordinaire pour notre futur. Alors continuons.
Florence Porcel, sur les réseaux sociaux, ça s'affole complètement. Je crois qu'il y a des hashtags autour de la comète qui arrivent en top, hein, en tête vraiment aujourd'hui.
Oui, le hashtag officiel français Pose-toi Phila est en deuxième position des sujets les plus discutés sur Twitter en ce moment. Voilà. Donc on compte sur vous, internautes, pour le placer en première position. Ce serait quand même top.
Philippe Hénarejos, avant de rejoindre Darmstadt dans un instant avec Jean-Pierre Bibring et puis également Sophie Bécherel et Anne-Chantal Levasseur-Rogoux. Un mot sur ce qui se passe là en ce moment. On est vraiment là maintenant, on n'a plus rien à faire, on n'a qu'à attendre.
On n'a qu'à attendre, on est dans la fièvre de l'acométissage, si on peut dire ça comme
c'est
ça.
C'est vrai, il faut inventer des nouveaux
mots. Ça rappelle un peu, c'est un petit air d'Apollo 11 quand même. Bon, il n'y a pas du
vous étiez né à l'époque ?
Oui, mais pas de beaucoup. Hein. Non, c'est vraiment la fièvre de l'atterrissage. Il n'y a plus qu'à attendre et on espère que ça va marcher.
Allez, Jean-Pierre Bibring, vous qui êtes auprès de Sophie Bécherel, donc à Darmstadt, qu'est-ce qui se passe là en Allemagne exactement ? Pourquoi vous êtes là-bas auprès des équipes de l'ESA ?
Bonjour. C'est-à-dire que c'est d'ici que tout se pilote, tout se commande. Comme ça a été dit, toutes les opérations ont été envoyées, sont effectivement une séquence d'ordres qui se déroule maintenant et on reçoit en temps quasi réel toutes les informations. Et grâce à ça, eh bien, on essaie de voir si ça a fonctionné, ce qu'il faut faire. Et on se prépare surtout effectivement au grand moment qui va être l'arrivée dans quelques heures maintenant. C'est un moment que tout le monde vit comme historique, mais nous qui travaillons depuis maintenant plus de 20 ans et avons un temps tout cela, c'est un moment tout à fait ahurissant. Quoi. Essayer de se poser sur une comète pour essayer de comprendre nos origines, c'est quand même pas trivial. Et voilà, on en est exactement là maintenant, à quelques heures. C'est vrai que dans quelques minutes vont arriver les premières images que nous avons faites juste après avoir quitté Rosetta. Donc c'est la première fois que notre engin est autonome, il vit sur ses propre batterie, vit de sa propre vie. Se déroule un programme d'expérience tout à fait fabuleux qui a commencé il y a quelques minutes, qui va se poursuivre pendant 48 heures à peu près. Et les premières images vont nous dire, j'espère, que tout fonctionne bien, que l'orbiteur suit sa route, reste en visibilité au-dessus de nous et donc va être capable de transmettre jusqu'à nouveau, après-demain, les données qu'on va recueillir. Et c'est ça qu'on essaye de faire maintenant, optimiser la suite des opérations en fonction de ce qu'on va voir. Donc le grand moment, c'est ce qui va se passer à partir de 5 heures tout à l'heure, lorsqu'on va avoir les premières données qui vont arriver après que l'on se soit posé. C'est un moment important, bien sûr, parce que se poser, ça n'a jamais été fait, c'est extrêmement complexe, et on n'est pas totalement sûr, mais on a tout fait pour que ça fonctionne bien. Mais le plus important, c'est qu'une fois qu'on se sera posé, il faudra qu'on essaye de savoir dans quelles conditions on s'est posé et en fonction de cela, bien comment faire la suite des opérations, dans quel ordre faire les choses. On a très peu d'énergie à bord, on est extrêmement contraint, donc faire travailler les 10 instruments que l'on a pour avoir ce que l'on veut, c'est-à-dire l'ensemble des propriétés et la composition de ce matériau, c'est un véritable défi, c'est une prouesse technologique avec une technologie d'il y a 20 ans, à vrai dire. Et voilà, c'est pour ça qu'on est ici, pour ne pas perdre un instant et surtout réagir en temps réel pour optimiser ce qui va suivre.
Alors Jean-Pierre Bibring, là, quelles sont les dernières nouvelles que vous avez de Philae avant évidemment l'opération d'atterrissage prévue à 16h34 sur la comète? Qu'est-ce que l'on sait là exactement?
L'info la plus fraîche? C'est que l'éjection a été parfaite et ça c'était bien sûr la grande inconnue puisque tout ce qui va se passer maintenant dépend de la manière dont l'éjection se conduit. L'éjection s'est faite sur une trajectoire que l'orbiteur Rosetta a fabriquée d'une manière réellement exemplaire et je dois dire que nos techniciens de l'Agence spatiale européenne sont absolument remarquable. On a été éjecté comme on l'avait souhaité, c'est-à-dire exactement avec le vecteur vitesse que l'on voulait, dans la bonne direction, avec la bonne vitesse, la bonne valeur de la vitesse. Maintenant, on n'en sait pas beaucoup plus parce que, à nouveau, les données sont juste en train d'arriver. C'est vraiment du temps réel. On suit ça comme ça arrive, exactement comme vous pourriez le suivre. Je n'ai même pas encore vu les premières images qui vont nous arriver dans 3-4 minutes, j'espère. Donc, voilà, c'est juste en train de parvenir. Il ne faut pas oublier que le temps de transmission entre ce qui part de là-haut et ce qui nous arrive ici, c'est près d'une demi-heure. Donc, voilà, même quelque chose qui s'est passé il y a une heure arrive tout juste, à vrai dire. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on ne peut dire que tous les premiers transferts de notre engin vers l'orbiteur se sont parfaitement passés. On peut suivre cela. On l'a suivi dans les deux premières heures. Donc, pour l'instant, on ne peut pas espérer mieux que ce qui est en train de se passer.
Oui, donc cette première image, évidemment, on l'attend dans les minutes qui arrivent. On la fera partager, hein. On compte sur vous, aux auditeurs de France Inter, sur le site. Dès qu'on aura cette image, on essaiera de la diffuser, évidemment, immédiatement. À vos côtés, Annie-Chantal Levasseur-Augoux, spécialiste des comètes. J'aimerais encore qu'on parle de ce que vous ressentez là en ce moment même, Annie-Chantal Levasseur-Augoux, sur cet événement que nous vivons tous ensemble.
Bonjour. Ce que je ressens le plus, c'est la différence considérable entre cette mission, qui est vraiment une mission de longue durée, qui ne se contente pas de déposer Philae sur un noyau, mais qui s'est approché progressivement de ce noyau, qui va le suivre sur toute son orbite, et les missions précédentes. Les missions précédentes, c'était des survols, ça durait une demi-heure, à peu près une heure dans le meilleur des cas. Là, on a une mission qui dure 2 ans et qui permet d'apprendre en détail beaucoup de choses sur cet objet. Il est clair que, d'ailleurs, l'atterrissage aujourd'hui n'aurait pas été concevable si on n'avait pas passé déjà plusieurs mois à le regarder, à découvrir sa complexité. Et là, on le voit vraiment directement. C'est un objet qui nous raconte notre histoire remontant 4,6 milliards d'années. Et une histoire qui a été d'autant plus chahutée, si je puis dire, que cet objet n'est pas sur une gentille orbite circulaire comme la Terre, toujours à la même distance du Soleil, mais qui s'éloigne du Soleil, qui s'en rapproche, qui s'en éloigne de nouveau. Et c'est vraiment un témoin de nos origines. Et comme vous le savez, quand j'utilise cette phrase, ce n'est pas de la poésie, c'est parce qu'on pense de plus en plus qu'une proportion non négligeable, et peut-être presque tout, de l'eau terrestre nous a été apportée par les impacts de comètes dans les premiers millions d'années d'existence du système solaire. Et on peut penser aussi que les petites particules solides qui s'échappent, qu'on voit s'échapper du noyau, les poussières cométaires, ont pu être des vecteurs de molécules carbonées complexes, ce qu'on appelle parfois des molécules prébiotiques, par exemple des acides aminés. Et c'est peut-être pour ça que la vie a pu commencer sur notre planète qui était juste à la bonne distance du Soleil pour que l'eau soit à l'état liquide. Donc tout ça, c'est assez émouvant, évidemment.
Beaucoup d'informations qui nous parviennent. Et on a aussi des sons. Alors, on connaît maintenant l'odeur de la comète. Apparemment, ce n'est pas extraordinaire, d'ailleurs. André Braic, ce n'est pas un parfum extrêmement suave.
Je préfère les parfums à grâce, mais cela dit, ils nous apprennent quand même beaucoup de choses.
Voilà. Mais on a aussi le son de la comète. On va l'écouter. C'est un son qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux ce matin. Le voici.
Expliquer.
Alors voilà, Francis Roca, on explique effectivement. Qu'est-ce qu'on entend alors? Ça, c'est directement pris sur la comète?
Alors, à vrai dire, je ne sais pas exactement ce qu'on entend. Mais je crois que c'est
vous
un
entendez.
Des instruments. Oui, j'entends très bien. C'est un des instruments de Rosetta qui doit être RPC, Rosetta Plasma, qui a enregistré un signal et ce signal a été transféré en ondes sonores. C'est totalement artificiel. Donc ce son n'est pas réel. Il est transcrit en ondes sonores au même titre qu'on l'avait fait autour de Saturne. Il y a eu des sons comme ça. Mais évidemment, ouais. On ne vous entend pas crier dans l'espace. Vous vous souvenez de ce film?
Il n'y a pas d'atmosphère autour. Donc
il n'y a pas de son.
Ouais. Claudie Nuret, parce que vous allez devoir nous quitter dans quelques instants. Je sais que vous êtes devenu astronaute parce que vous avez vu le premier pas sur la Lune. Et il faut imaginer que peut-être en ce moment, il y a des jeunes gens qui, grâce à Philae, grâce à Rosetta, grâce à la comète, vont peut-être aussi s'engager sur la voie de l'espace plus tard. Hein.
Mais oui, pourquoi pas, ils sont les bienvenus, des scientifiques, des techniciens, des ingénieurs pour participer à cette merveilleuse aventure. Ce que je trouve formidable quand on écoutait Jean-Pierre ou Annie-Chantal tout à l'heure ou vous autour de ce plateau, c'est qu'on se sent dans une aventure humaine et une aventure de l'humanité. Jean-Pierre disait « on a quitté la sonde Rosetta ». On dit « nous ». Et d'un seul coup, voilà, cette science qui peut paraître parfois un petit peu complexe à distance, dans des superbes projets comme ça, on la vit, c'est notre aventure. Et moi, c'est vrai que c'est ce qui m'a fait vibrer pour la belle aventure du premier pas de l'homme sur la Lune en 69 et qui m'a conduit à poursuivre cette exploration. Alors si des aventures comme celle-là peuvent déclencher des déclics formidables, magiques, vers la science et la technologie, oui, c'est un bonheur.
Et le public peut nous rejoindre ici à la Cité des Sciences. Retransmission en direct de l'atterrissage de Philae. Alors évidemment avec le temps de décalage, mais on va le vivre ici toute la soirée également.
Absolument.
Avec un écran géant pour les personnes qui n'auront pas la possibilité de rentrer dans l'auditorium. Mais venez ici, il y a vraiment quelque chose de très particulier. Et surtout, les scientifiques sont présents pour discuter aussi avec le public.
Voilà, ça va être très riche, ça va être un moment magique, comme on les aime.
Merci Claudie Aigneret. Quel fantastique bond en avant ou en quelques siècles, nous dit Jean-Paul sur franceinter.fr. On est passé de la peur d'apparition des comètes, de la méconnaissance de celle-ci, à la pose de Rosetta sur une comète. C'est vrai qu'il y a tout un imaginaire assez négatif autour de la comète, André Barry.
Et oui, parce que Satan aurait écrit l'histoire. À chaque fois qu'un événement se produisait, ou bien une catastrophe, ou bien la naissance du fils d'un empereur, on l'associe à un passage de comète.
Ouais.
Et certains disaient que c'est un mauvais présage, d'autres un bon présage. Et c'est l'époque, disons, un petit peu obscurantiste. On ne savait pas ce que c'était. Et tout de même, il y a environ 2000 ans, des gens comme Leucippe, Eurydice, Démocrite avaient compris que c'était un phénomène naturel, que toute cause produisait un effet et qu'une approche rationnelle du phénomène devait permettre de comprendre. Et il disait, dans les siècles futurs, nous comprendrons de quoi il s'agit. Eh bien, cette prédiction d'il y a 2000 ans est en train aujourd'hui de se réaliser. Ouais. C'est pas la peine de faire appel à je ne sais quel loup-garou. Simplement, ces comètes, c'est un petit peu ces cailloux à partir desquels nous sommes nés et c'est une merveilleuse aventure.
Francis Rocard.
Deux petites choses. D'abord, c'est amusant parce que parfois les comètes sont annoncées, considérées comme un mauvais présage pour les batailles. Mais s'il y a un perdant, c'est qu'il y a un gagnant. Donc c'est un bon présage pour le gagnant. Donc, ouais. Première remarque. La deuxième, c'est qu'effectivement, Aristote a malheureusement dit les comètes sont des exhalaisons sèches, atmosphériques. Et ça a duré jusqu'à Tycho Brahe. C'est lui qui, le premier, a dit, mais pas du tout. Moi, j'ai mesuré la distance et la comète, elle est au-delà de la Lune. Donc c'est un objet qui se promène autour du Soleil. Donc il a fallu 1500 ans, voire plus.
Jean-Pierre Bibring, on apprenait ce matin qu'un des propulseurs de Philae était déficient et qu'il ne pourra pas fonctionner à l'atterrissage. Est-ce que ça peut mettre en péril l'arrivée de Philae sur la comète Chury?
Non. Parce que, d'abord, ce n'est pas les propulseurs, mais disons, on peut dire un système de propulsion, mais c'est un système de propulsion qu'on avait prévu et inventé, non pas pour se poser sur cette comète, mais sur une comète qu'on avait choisie avant, qui était beaucoup plus petite, pour laquelle il fallait effectivement se pousser pour aller vers elle, parce qu'elle était trop petite pour nous attirer. Pour cette comète-là, qui est de plus grande dimension, alors qu'elle ne fait pourtant que 4 km, on n'a pas besoin de cela. Et donc, on avait pensé utiliser ça uniquement au moment où on allait toucher le sol pour éviter de rebondir. Mais de ce que l'on croit être ce noyau cométaire, il y a très peu de glace à la surface, il n'y a pas de quoi rebondir et donc à vrai dire, ça sera sûrement, on le verra dans 2 heures, mais beaucoup plus poreux qu'on ne pense et le risque, ce n'est pas tant de rebondir qu'au contraire s'enfoncer. Et donc la perte de ce moyen de propulsion à la dernière minute, honnêtement, ne nous pose absolument aucune difficulté. On pensait même ne pas forcément le mettre sous tension.
Oui. Philippe Hénarejos.
Oui, je crois qu'il y a 2 harpons aussi qui vont se déclencher pour rentrer à la comète. Dites-moi, Jean-Pierre Bibring, puisque vous êtes là et que vous connaissez ça mieux que nous, le déclenchement des harpons n'est pas lié au déclenchement du propulseur?
Non, pas du tout. C'est même l'inverse. Enfin, pas l'inverse, mais non, c'est dès qu'un pied dans 2 heures donc, va toucher la surface, en touchant la surface, il va déclencher un certain nombre de choses qui vont dire à l'ensemble du système, ça y est, on a touché terre, si on peut dire. Et donc, un certain nombre d'opérations vont se faire. Et la première, effectivement, ça va être d'envoyer 2 harpons dans la surface qui vont aller le plus loin possible. On va les rétracter après. Et d'ailleurs, de cette mesure-là, on saura un petit peu quelle est la dureté du sol. Et une fois qu'on sera bien ancré comme ça, on sera sûr de ne pas repartir. On a 3 pieds qui se déploient et au bout de chaque pied, il y a aussi des vis qui vont s'ancrer dedans parce qu'on pensait éventuellement avoir de la glace et pour éviter de glisser. Mais bref, on aura tout ce qu'il faut pour vraiment s'harponner à la surface. Donc l'idée que l'autre système ne marche pas est vraiment pas du tout une difficulté pour nous. Et je profite d'être à l'antenne pour vous dire que je viens effectivement de recevoir en temps réel donc la toute première image qui a été prise où on voit, pas bien parce qu'il faut la traiter un petit peu, mais on voit effectivement notre sonde qui est ici avec ses panneaux solaires d'un côté. On aura une très belle image dans un moment, mais elle est dans l'ombre et on voit la lumière qui se réfléchit sur les instruments à l'extérieur. Et donc, c'est très émouvant parce que voilà, pour la première fois, on s'est séparé de notre engin et on voit celui qui nous a porté pendant 10 ans jusqu'à ce point-là s'éloigner de nous. On s'est séparé, comme on dit. Et nous, on est en train de descendre et lui va continuer sa trajectoire. Et comme disait tout à l'heure Annie Chantal, nous, on va travailler quelques jours. Cet engin va travailler quelques quelques mois. Mais ensemble, on va faire des découvertes qu'on espère considérables.
Oui, Francis Rocard, c'est l'enfant qui vient de quitter sa mère. C'est Philae qui vient de quitter Rosetta. La photo de Rosetta, donc la première image, c'est celle-ci.
Oui, oui, c'est tout à fait ça. Mais c'est aussi une bonne nouvelle. C'est-à-dire que cette image nous dit que Philae se comporte comme on espère qu'il va se comporter. C'est-à-dire que ce qu'on veut absolument éviter, c'est que Philae se mette à tournoyer sur lui-même. On veut qu'il garde son train d'atterrissage vers le bas, pour qu'il est parallèle à la surface jusqu'à l'atterrissage, sinon ça va mal se passer.
Oui. Comment on peut voir cette photo, Jean-Pierre Bibring, s'il vous plaît, pour les auditeurs qui souhaiteraient vivre ce moment également avec vous ?
Eh bien, cette photo, celle-ci ou ses petits frères, parce qu'on va avoir plusieurs images qui vont en faire une seule, vont être mises sur un site qui sera d'abord le site de l'ESA, auquel tout le monde aura accès. Et de là, elle va être envoyée un petit peu à tous les sites, et j'imagine celui de la cité, au plus tard dans une heure et probablement avant. Et donc, vous allez voir, tout le monde pourra avoir accès à elle. Elle va être montrée, en tout cas, à 15h15, je sais, ici à l'ESOC. On s'est promis à ce moment-là de faire une présentation de ce où on en est. Et voilà, c'est difficile de la diffuser un petit peu avant parce qu'il faut la travailler un peu. Et là, je suis en train de faire autre chose que travailler l'image. Mais dans quelques temps, on va faire tout ça.
C'est, ce qui est extraordinaire, voilà. Si vous permettez, Mathieu, c'est que oui. Jean-Pierre Bibring a cette image sur son téléphone portable. Alors, il faut rappeler, la technologie qui est à bord de Rosetta et de Philae a plus de 10 ans. Et donc, sa capacité, par exemple, de mémoire n'a rien, mais absolument rien à voir avec ce que contient désormais et ce dont est capable aujourd'hui un téléphone portable. Donc, il y a un choc, si vous voulez, générationnel qui est tout à fait stupéfiant.
Si vous voulez, sur mon téléphone portable, je peux stocker des milliers d'images. À bord de Philae, on peut stocker au maximum 8. Une dizaine d'images. Donc effectivement, mais ces 10 images sont suffisantes si on a la possibilité de vider la mémoire au fur et à mesure, de les transférer sur Terre et de les remplacer par d'autres. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs immédiatement. Ces images, une fois qu'elles sont passées jusqu'à chez nous, ont laissé la place pour les images de ce soir qui seront le panorama une fois qu'on sera posé. Mais les images que l'on a là disent déjà que notre panorama sera remarquable parce que la qualité sera au rendez-vous.
Voilà, Sophie, n'hésitez pas donc à envoyer cette photo sur le site de franceinter.fr. On serait quand même très, très heureux de pouvoir en faire profiter les auditeurs en exclusivité. Pourquoi pas aussi avec les lecteurs de Ciel Espace, Philippe Hénarejos, hein ?
Il faut shipper le portable à
Jean-Pierre Bibring. Voilà. En attendant les photos, on a les dessins. Nous, Aurélie Bordenave, qui fait des choses magnifiques ici depuis la Cité des Sciences, eh bien, vit cet événement avec nous. Et je vous invite à regarder ce qu'elle fait justement sur franceinter.fr. Avant que vous nous quittiez, Jean-Pierre Bibring, un tweet de Zakal au sujet de la récupération des données recueillies par Philae. C'est prévu pour quand exactement ces données ?
Alors, ça dépend de ce que vous appelez les données de Philae. Elles arrivent en temps, comme vous le voyez ici, elles arrivent en permanence, je dirais. Donc, dès que le lander est en visibilité avec Rosetta, il envoie tout là-haut et Rosetta nous les renvoie à la Terre. Donc, c'est vraiment en permanence. Le panorama, on va le faire à 5 heures ce soir et au plus 2 heures après, probablement 1 heure et demie après, tout le monde aura accès à ces images-là. Donc, dès qu'on a des données, on les diffuse et on va les diffuser. Et donc, comme on va travailler pendant 48 heures, 50 heures à peu près, jusqu'à après-demain, l'ensemble des résultats qui sont exploitables, pour autant qu'on les ait bien sûr, et qu'ils ont été travaillés par les scientifiques, vont être mis en ligne. Et donc en première, ça sera d'abord par le site de l'ESA, puisque notre agence qui nous a offert cette mission, c'est l'Agence spatiale européenne, mais ça va être repris un petit peu partout. Donc pour répondre en ce qui concerne les données de ce soir, je pense que pour les gens qui viendront à la cité ce soir, ils verront l'ensemble de ce qui aura été obtenu jusqu'à ce soir, c'est-à-dire que les images de cet après-midi, après qu'on ait quitté l'orbiteur, et les images de ce soir, dès qu'on se sera posé. Pour autant que ça marche, mais bien sûr, il n'est pas question que ça ne marche pas.
Bon, ben on croise les doigts, en tout cas, puisque maintenant, on est à 2 heures de l'atterrissage quasiment. Il est 14h28 et on attend l'atterrissage pour 16h34, très précise, Philippe. Vous avez tout le calendrier, en fait, hein, tout l'emploi du temps,
oui,
la journée comme, sous les yeux.
Oui, hein. Comme tout le monde.
Voilà, donc c'est la feuille de route de ce qui se passe minute par minute. Comment nommer ce contact ? Atterrissage ou accométissage, André Braïc, vous qui aimez les
quand
mots.
Quand on atterrit, on ne se pose pas sur la planète Terre, on se pose sur le sol. Donc qu'on aille sur la Lune, sur Mars, sur Saturne, enfin sur un satellite de Saturne ou une comète, c'est atterrissage.
Oui, mais on allunit aussi, donc on pourrait.
Mais c'est pas forcément le bon terme.
Donc on pourrait accométir.
on ça pourrait, vous plaît pas. Mais hein. C'est moins bien.
Ça vous plaît pas.
Je propose qu'on reste, qu'on parle français,
bon.
C'est mieux.
Bah, écoute, on peut aussi inventer des mots, c'est amusant parfois. Francis Rocard, non, sur ce néologisme, vous n'êtes pas preneur non plus.
Ah mais oui, c'est vrai qu'on allunit, mais pour le reste on atterrit.
Bon, des questions ici dans le public de la Cité des Sciences. Bonjour à vous.
Bonjour.
Comment vous appelez-vous ?
Christophe.
Christophe, on vous écoute.
Donc, je voudrais savoir à quelle vitesse tombe Philae ?
Alors, Francis Rocard.
À quelle vitesse tombe Philae ? Philae a été largué à une vitesse de 19 cm par seconde. Ça, c'est le largage par rapport à Rosetta. Donc, on le pousse. Après, il y a dans la direction dans laquelle on pousse Philae, il se trouve qu'on pousse Philae vers le bas et vers l'arrière. Donc il s'agit de réduire la vitesse de Rosetta et surtout de l'injecter vers le bas, parce que la gravité ne vous fait pas tellement descendre. La vitesse de descente au départ est de 2,5 km/h, et au bout de 7 heures, on va atteindre la vitesse pharaonique de 3,5 km/h. Donc on a subi très peu la gravité. Donc c'est vraiment l'impulsion de départ qui nous fait descendre et l'accélère d'un kilomètre heure en 7 heures, finalement.
À tous de DDO, prêts pour le décompte final.
Mission Rosetta.
10, 9,
on se pose sur 8, la comète.
This is a rendezvous with the comet.
La tête au carré, 5, au cœur de l'événement.
Now, ladies and gentlemen, we are approaching the moment of truth.
Sur France Inter.
Top.
Voilà, Florence Porcel sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ça s'affole, ça s'agite.
Les internautes sont fébriles, hein. Il y en a qui écrivent des poèmes, d'autres qui partagent des photos rigolotes. Il y a un petit internaute qui a un petit robot Wally qui encourage Philae. Il y a aussi des photos de Dark Vador en comité d'accueil sur la comète. Et quand même, les internautes se demandent ce que va devenir Rosetta, beaucoup. C'est une question qui revient beaucoup.
Mm-hmm. Voilà. Francis Rocard.
Rosetta ou Philae?
Rosetta.
Alors, Rosetta. Rosetta, sa mission, c'est un escorteur. Donc Rosetta escorte la comète depuis cet été et va l'escorter jusqu'au périhélie qui a lieu, le passage le plus près du Soleil, on est en août 2015. Et ensuite, on fait la branche ascendante de l'orbite. Et ce qui veut dire qu'on pourrait se retrouver à... Ce n'est pas prévu aujourd'hui, mais on pourrait imaginer de se remettre en hibernation en mars 2017, quand on aura fait le symétrique de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, puisqu'on descend et après on remonte. Mais tout ça est encore lointain.
Réaction en Allemagne à Darmstadt.
Jean-Claude Ibring. Effectivement.
Oh. Allez-y, Annie Chantal de Vassorgou.
Eh bien, effectivement.
Annie Chantal de Vassorgou, on vous écoute.
Effectivement, Rosetta, la mission de Rosetta, c'est d'être opérationnel, il n'y a pas de souci de ce côté-là, jusqu'au 31 décembre 2015. C'est-à-dire qu'on va passer au périhélie le 13 août 2015 et ensuite continuer sur l'orbite. Et le fait de passer au périhélie, ça veut dire passer au plus près du Soleil pour cette comète, mais ce n'est pas aller se brûler les ailes à proximité du Soleil. À son périhélie, la comète Churyumov-Gerasimenko sera un peu plus éloignée que la Terre. Normalement, elle sera 1,25 fois plus éloignée du Soleil que la Terre ne l'est quotidiennement, si je puis dire. Et de toute façon, il est hautement prévu que le 31 décembre 2015, à moins que toute l'Europe n'ait fait faillite, la mission Rosetta continue encore. On a vu beaucoup de succès avec des missions comme Mars Express, Vénus Express et SOHO. Ce sont des missions qui, les sondes étaient toujours opérationnelles. Eh bien, ça continuait de fonctionner. Et il faut comprendre que pour vraiment tout appréhender d'une comète, on a besoin de voir sa distance au Soleil qui évolue. Et je dirais même que pour interpréter tout ce que Philae va nous révéler, il faut aussi des observations en continu avec Rosetta. Il y a vraiment une synergie entre les deux. Ces missions, ce n'est pas simplement des images qui d'ailleurs parfois sont légèrement trompeuses parce qu'on se réfère à ce que l'on connaît sur la Terre, sur Mars, alors que là on est dans un monde complètement différent avec une gravité, une attraction gravitationnelle qui est presque 100 000 fois plus faible que celle que nous connaissons sur la Terre, ce qui nous fait tomber, n'est-ce pas? Et c'est pour ça d'ailleurs que la descente de Philae est si lente. Donc il faut vraiment des efforts, beaucoup d'expériences complémentaires, l'expérience de terrain que nous donne Philae et le suivi à proximité tout de même du noyau. N'oublions pas qu'on n'a jamais été aussi près d'un noyau cométaire qu'apporte Rosetta.
Philippe Hénarejos.
Oui, ce qui est intéressant dans la durée de cette mission, c'est justement que la comète, à mesure que le temps passe, elle se rapproche du Soleil. Jean-Pierre Habib, il n'y avait pas beaucoup de glace, mais il y en a quand même, c'est une comète. Et donc cette glace, quand elle est exposée au Soleil, et au Soleil de plus en plus chaud, eh bien elle fond. Alors comme elle est dans l'espace, qu'il n'y a pas d'atmosphère, elle ne devient pas de l'eau, comme le font nos glaciers sur Terre, mais elle se transforme directement en vapeur d'eau. Ça fait des jets qu'on voit déjà, qui vont sans doute se multiplier, peut-être grossir. Et Philae, s'il survit, et Rosetta, en tout cas, seront là pour observer cette évolution, peut-être voir les changements du paysage. Et ça, c'est une grande nouveauté.
André Braïc, ce courriel de Kayagas avec une pesanteur 100 000 fois inférieure à celle que nous connaissons sur Terre. Aucun risque que la sonde s'envole, vu qu'elle ne pèse plus que quelques grammes.
Oui, mais si par hasard le sol était extrêmement rigide et si nous rebondissions trop fortement, eh bien on atteindrait très facilement la vitesse d'évasion. Donc il faut à la fois y aller avec douceur. C'est pas comme... Vous savez, quand les Américains ont rencontré une comète, ils ont frappé, boum. Les Européens, eux, ils caressent. Donc, oui. Nous caressons la comète, ce qui, je trouve, est une approche plus sympathique, oui. Surtout qu'on approche une dame comme la comète.
Oui.
Eh bien, on la caresse doucement. On ne veut pas s'en éloigner et rebondir. On ne veut pas pénétrer à l'intérieur trop rapidement, sinon on n'aura plus rien. On veut rester dessus et observer ce qui se passe sur chaque milligramme de sa peau.
C'est d'un érotisme, Rosetta. C'est
pas
terrible.
Du tout. C'est une caresse, c'est pas érotique.
Pas du tout. C'est juste présent. Si, c'est érotique, une caresse.
Oui, doucement.
Oui, moi, je voulais. Excusez-moi, je voulais rappeler que ce n'est pas une manœuvre très très simple ce qui vient de se passer. À titre d'exemple, les Japonais sur Hayabusa ont largué un petit atterrisseur vers un tout petit astéroïde qui s'appelait Itokawa. Eh ben, ils ont mal visé.
Oui, ils ont raté
l'objectif. Donc ils ont raté l'astéroïde, ouais. C'est-à-dire que l'atterrisseur, il tourne autour du Soleil actuellement.
Ouais. Jean-Pierre Bibring, il y a une belle bataille entre l'Europe et les États-Unis quand même là, en ce moment. La NASA doit être un petit peu jalouse de ce qui se passe, non ?
Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe auprès de la NASA. Il y a des représentants de la NASA ici et je peux vous dire qu'ils étaient extrêmement chaleureux et très heureux de cette coopération. Ils sont un petit peu avec nous ici, mais en partenaire mineur et non pas majeur comme d'habitude. Et je crois qu'ils s'y font à cette position-là parce que c'est un petit peu aussi emblématique de ce qui risque d'arriver dans l'avenir où de plus en plus il faudra travailler ensemble. C'est vrai que le mot de coopération n'a pas le même sens des deux côtés de l'Atlantique. Nous, on coopère parce que c'est bien d'échanger et de partager. Eux, ils coopèrent plus lorsque ça leur fait diminuer les crédits qu'ils mettent eux-mêmes, mais on sent que quelque chose est en train de se passer. Et auprès des gens de la NASA, qui sont pourtant des responsables ici, on sent, hein, ce matin, c'était évident, au moment où les choses se passaient bien pour nous, les sourires étaient réellement très authentiques et très sincères. Donc oui, bien sûr, il y a toujours en arrière-plan une certaine course, comme il y avait du temps du combat entre la NASA et l'Union soviétique. Et c'est vrai que maintenant, il y a un petit peu la même chose entre la NASA et d'autres partenaires comme l'Europe. Mais honnêtement, quand il s'agit d'aventures comme ça, les gens qu'on a en face de nous, qui sont aussi des scientifiques, des ingénieurs, des techniciens, qui se rendent compte de la prouesse que ça représente, sont admiratifs beaucoup plus que, comment dire, il n'y a pas de jalousie ou de vengeance en tête, non, il y a vraiment l'idée de partager le savoir-faire. Et c'est vrai que l'Europe démontre ici une capacité de savoir-faire tout à fait remarquable. L'Europe, tant au niveau de la possibilité d'envoyer des systèmes qui font ces prouesses-là, parce que c'est vrai que c'est une prouesse technologique que l'on n'imagine pas de se poser à la surface d'une comète, mais c'est aussi une prouesse scientifique incroyable d'avoir fabriqué des instruments capable de travailler dans de telles conditions. Les images que vous allez voir, c'est des images qui sont faites avec des caméras qui travaillent à moins 100, moins 150 degrés. Il faut voir ce que veut dire que fabriquer des caméras qui travaillent à cela. Ça veut dire qu'on a acquis un savoir-faire globalement au niveau de nos pays, et en France en particulier, grâce au soutien du CNES, qui est tout à fait valorisé. Donc non, je ne pense pas que dans le regard de nos partenaires américains du jour, il y ait eu autre chose que vraiment de la félicitation. Et je crois qu'il faut en tout cas rester à ce niveau-là.
Allez, on est à 2 heures de l'atterrissage. Nous avons également dans le public Vincent Guyot, qui est le concepteur de Rosetta. J'aimerais bien qu'il vienne nous retrouver pour nous dire un petit mot dans un instant. Et puisque nous sommes mercredi, qu'il y a beaucoup d'enfants dans la salle aujourd'hui, ici à la Cité des Sciences, j'aimerais leur donner la parole. Il y a une petite fille qui est là devant nous. Bonjour.
Bonjour.
Comment t'appelles-tu ?
Amélie.
Bonjour Amélie. On écoute ta question. Vas-y, c'est à toi.
Quand est-ce que la comète Shuri passera proche du Soleil?
Alors, qui veut répondre? André Braïc?
Cette comète a une orbite qui est en gros une ellipse. Elle se rapproche actuellement du Soleil. Je crois qu'elle l'atteint, c'est au mois de décembre 2015, mois d'août plutôt 2015, à peu près. Et ce qui se passe, c'est que cette comète, qui est faite d'éléments très froids, qui en fait a été formée très loin, au-delà de Neptune, et par un jeu de perturbations avec les planètes, s'est rapprochée, comment dirais-je, du Soleil. Quand elle est très près du Soleil, elle dégaze avec une atmosphère autour, une queue, etc. Quand elle est plus loin, elle garde les éléments. Et c'est grâce à ces éléments qui partent qu'on a une idée de ce dont elle est composée. Et avoir une idée si elle est composée, ben c'est reconstituer notre histoire. Et c'est toute cette belle histoire qu'on fait. C'est connaître notre passé et préparer notre futur.
Voilà. Annie-Chantal Levasseur-Rogou, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire justement sur cette comète? Pourquoi est-ce qu'elle nous a autant intéressés? Pourquoi on a fait le choix d'aller se poser sur Shuri?
Ce n'était pas vraiment un choix de se poser sur Shuri. C'était une idée très maligne au départ, pour cette mission Rosetta, de choisir une de ces comètes que nous appelons de la famille de Jupiter, parce qu'elle s'éloigne relativement du Soleil, jusqu'à peu près à l'orbite de Jupiter, c'est-à-dire 5 fois la distance de la Terre au Soleil. Et, et elles sont à peu près dans le même plan orbital que Jupiter, que la Terre, que toutes les planètes, le plan de l'écliptique. Et donc, on savait très bien que si on ne pouvait pas viser la première choisie, on aurait d'autres comètes possibles. Et j'ai envie de dire que toute cette mission, justement, peut-être par la force de tout ce qu'il pouvait y avoir comme intelligence au niveau de tous les participants dans tous les pays d'Europe impliqués, et aussi en partie aux États-Unis, comme le disait Jean-Pierre, eh bien, ça a été de toujours trouver des solutions malines et pour éviter toutes les catastrophes. Vous le savez peut-être, dans un premier temps, Rosetta devait être lancée au début de l'année 2003. Il y a eu un souci sur une fusée Ariane pour la nouvelle génération des Ariane 5 quelques mois plus tôt. Et à ce moment-là, l'Agence spatiale européenne, dans sa grande sagesse, a décidé de laisser du temps à Ariane pour qu'on ne lance pas en urgence. Et donc, au lieu de lancer au mois de février, si mes souvenirs sont exacts, 2003, vers la comète Virtanen, eh bien, on a lancé au mois de mars 2004 vers la comète Churyumov-Gerasimenko. Toutes ces comètes, d'ailleurs, étant des noms, ayant les noms des personnes qui les ont découvertes. Et il y a M. Churyumov, Mme Gerasimenko, qui sont deux collègues qui travaillent en Ukraine et qui sont tellement heureux d'avoir permis la découverte de cet objet.
Monsieur Churyumov est venu ici à Darmstadt.
Clint, pour les intimes.
Et on fait beaucoup dans l'Égypte, hein, Francis Rocard, autour de Rosetta, de Philae et du site d'atterrissage.
Voilà, tout ça est un peu lié. Rosetta, c'est la pierre de Rosette. Philae, c'est une obélisque qui a aussi trois langues avec un même texte. Donc ça a permis de comprendre les hiéroglyphes. Et Aghilkia, c'est une île sur le Nil où tout ça se passe, puisque cette obélisque, je crois, a été déménagée.
Ouais. Voilà. Donc voilà, on est très égyptiens.
C'est une tradition d'astronomie de donner des noms de toutes les mythologies terrestres. Notre règle, c'est qu'on ne met pas d'hommes politiques, pas de généraux et pas de religion. Isis, Osiris, ça va, plus personne n'y croit. Les autres, on attend un peu. Et donc, en gros, on utilise ces mythologies esquimaux, océaniennes et autres. Et là, c'est l'Égypte qui est à l'honneur.
On se pose sur la comète.
67P, Churyumov, Gerasimenko.
Une première mondiale à vivre dans la tête au carré.
This is your only chance to have a rendezvous with a comet.
Sur France Inter.
Enjoy it.
3,
enjoy it.
2, 1, top.
Alors, Florence Porcel, sur les réseaux sociaux, on a déjà la photo qu'on décrivait tout à l'heure avec Jean-Pierre Bibring, c'est
alors,
ça, de Rosetta.
Alors, on a des photos d'écran.
Oui, mais c'est déjà un premier document.
Alors, hein. C'est très flou, mais ça permet d'avoir une idée de ce que sera la photo avec un traitement d'image correct.
Qu'est-ce qu'on voilà. voit, Francis Rocard et André Braïc, alors
on,
vous pouvez nous le décrire.
On voit pas grand-chose. J'ai l'impression qu'on voit, parce qu'il y a du reflet en plus, j'ai l'impression qu'on voit un panneau solaire avec pas mal de reflets. Et c'est difficile d'en dire plus parce que franchement.
Non, comme ça a été dit, ce qu'on voit, c'est que ça se passe bien pour l'instant.
Oui, mais
on pas encore la comète.
C'est déjà une
non,
information.
L'information capitale, c'est que Rosetta est dans le champ. Oui. Si Philae est tourné sur lui-même, on aurait probablement un champ d'étoiles. Donc
c'est
ça, c'est une bonne nouvelle.
Voilà, Philippe Hénarejos, très attentif évidemment aux premières images qu'on reçoit, puisque ça va atterrir aussi sur le site de Ciel et Espace dans la journée.
Oui, alors elle est effectivement un peu floue. C'est peut-être parce que Rosetta était trop près de Philae encore. La profondeur de champ n'est pas suffisante.
Ouais. Mais c'est peut-être un document historique déjà.
C'est une indication voilà.
Je ne sais pas si elle est floue d'ailleurs. Elle, pour l'instant, elle est sombre avec des reflets. On verra si elle est floue.
Sophie Becherel à Darmstadt. Sophie.
Elle est floue. Je peux vous confirmer qu'elle est floue. C'est ce que Jean-Pierre Bibring nous a glissé avant de partir la retravailler. Il n'était pas très, très favorable à ce qu'elle soit diffusée, n'étant pas magnifique. Mais effectivement, il dit que c'est le mouvement de Philae qui a donné ce léger flou, donc il sera corrigé au traitement de l'image.
C'est un flou de bouger, donc.
Voilà.
Mais
c'est déjà arrivé sur les réseaux sociaux.
Et puis, le reflet des panneaux solaires. Mais effectivement, c'est assez sombre, faut reconnaître.
Bon, et bien alors, Jean-Pierre Bibring a dû se faire pirater son téléphone portable parce que la photo est déjà en train de circuler un petit peu partout. Et elle va être dans quelques secondes sur l'attaque FI, sur le réseau de l'émission, sur franceinter.fr. À nos côtés, quelqu'un que vous connaissez, Philippe Hénarejos. Oui. Il s'appelle Vincent Guillot. Et vous êtes ingénieur à Airbus Defence and Space. Et vous êtes l'un des concepteurs de Rosetta.
Ah, disons que j'ai participé aux études de définition de cette mission dès la fin des années 80, à une époque où déjà on visait la comète Churyumov-Gerasimenko. C'était déjà elle qui avait été retenue parmi les comètes candidates. Ensuite, on est passé sur d'autres comètes, mais dans mes toutes premières années d'ingénieur, c'était déjà cette comète qui avait été identifiée. Oui. C'est intéressant.
Alors, comment vous vivez cet événement-là ?
Une émotion extraordinaire. On voit se concrétiser les travaux qu'on a menés depuis bientôt 30 ans.
Oui.
On a été impliqués dans les premières études. On a anciennement Astrium, maintenant Airbus Defence and Space, nous avons conduit le développement de la sonde Rosetta pour le compte de l'Agence spatiale européenne, avec nos différents sites en Allemagne, en France, en Angleterre.
Oui.
On est très fiers de ce qui se passe. Bon,
on peut saluer nos amis de Toulouse également, hein, parce
Absolument.
Qu'il y a beaucoup de monde à la Cité de l'Espace à Toulouse.
Absolument.
On va pouvoir vivre aussi, parce que c'est un centre opérationnel très important aussi. Non ?
Oui, absolument. J'étais hier soir à la Cité de l'Espace. Les préparatifs étaient... magnifique. Donc je pense qu'il y a beaucoup de monde là-bas aujourd'hui pour cette journée.
Mais le centre opérationnel, il est au CNES à Toulouse. C'est le SONC. Et c'est là où on reçoit toutes les informations scientifiques concernant Philae. C'est là où on a calculé les trajectoires de Philae. Et c'est là qu'on a coordonné le choix du site d'atterrissage de Philae.
Voilà, il faut également citer le planétarium de Vaux-en-Velin, près de Lyon, qui a dû se mobiliser aussi toute la journée pour faire vivre cette opération.
Mais je peux vous dire qu'il y a à peu près 25 sites en France qui récupèrent la vidéotransmission du CNES, qui est en gros celle de l'ESA traduit en français.
Oui.
Et donc il y a à peu près 25 sites en France actuellement qui sont actifs à partir d'à peu près maintenant.
Annie Chantal Levasseur-Rogoux, une question de Pierre sur franceinter.fr. Est-ce qu'on a espoir de voir la comète Shuri à l'œil nu un jour ?
Pas cette fois-ci. Elle revient donc, elle a une période d'un peu plus de 5 ans, de 6 ans. Cette fois-ci, elle ne sera pas visible à l'œil nu. On pourra la voir pour l'instant, par exemple, dans 2 jours, nous allons l'observer depuis le télescope Hubble. Mais donc, c'est avec des gros instruments, mais à la distance de la Terre. Il faut vraiment très gros instruments pour la voir actuellement et plutôt dans l'hémisphère sud, mais avec Hubble, ça peut aller. Hein. Et elle sera quand même visible pour des bons instruments de l'hémisphère nord à partir de la deuxième partie de l'année prochaine, la deuxième partie de 2015.
Nous allons écouter Jean-Jacques Dourdin. Oui. Allez-y, Annie Chantal Levasseur-Rogoux.
Pardon. Ce que je voulais signaler, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de sites en France. Je pense en Île-de-France, évidemment, il y a la Villette. Et il y a aussi le musée de l'air et de l'espace au Bourget. Il y a notre laboratoire à Guyancourt qui est portes ouvertes. Et il y en a énormément d'autres. Et ce qui est peut-être encore plus bouleversant, ce n'est pas seulement une histoire franco-française, c'est une histoire européenne. La même chose se passe sur divers sites en Allemagne, dans tous les pays qui sont très impliqués au niveau du spatial et de cette mission en Europe. Et ça se passe aussi, par exemple, actuellement, il y a un gros congrès de planétologie aux États-Unis, à Tucson, et ils sont en train de suivre en temps réel, ils vont suivre en temps réel, plus tard dans l'après-midi, le matin pour eux, ce qui se passe. Donc je crois qu'on se sent faisant partie de toute une communauté qui est un peu éparpillée sur la planète et de gens qui sont fascinés à la fois par nos origines et puis par le fait que quand on se met à travailler ensemble, on arrive à faire des choses assez incroyables.
Fassé nous demande sur franceinter.fr, Francis Rocard, comment se fait la communication entre la Terre et la comète, justement ?
Alors, Philae ne communique pas directement avec la Terre. Philae a une antenne située sur le sommet de l'engin. Ces antennes, c'est important pour la suite, ont un angle de 2 fois 60 degrés. Donc, on couvre 120 degrés d'hémisphère. Et pour avoir une communication, il faut que Rosetta soit dans ce champ. Et ensuite, Rosetta récupère les données et Rosetta a une grande antenne qui pointe vers la Terre en permanence. Et l'ESA a maintenant 3 antennes de 35 mètres. Donc, on couvre les 360 degrés de longitude terrestre et on peut communiquer pratiquement en permanence avec Rosetta. Plus d'ailleurs, en ce moment, le DSN américain est également actif.
Ouais. Vous nous quittez, Francis Rocard, hein, parce qu'on vous attend.
La comète m'attend.
Exactement. Donc, on vous laisse rejoindre vos camarades scientifiques. Et puis, André Braque filera, mais il va rester avec nous jusqu'à 15h pour vivre donc encore ces minutes qui arrivent jusqu'à l'atterrissage, donc à 16h34. On va écouter la voix du directeur général de l'ESA, Jean-Jacques Dourdin, qui souhaitait bonne chance justement aux équipes scientifiques.
We are just providing data. The scientists will make the work. And I am sure that the scientific data that we shall collect will give them for decades of work. So I wish bon courage to all the scientists which are today waiting for the data.
Voilà. Oui, oui, je bon courage, André Braic.
Absolument.
C'est formidable
déjà,
de parler anglais avec un accent
déjà,
français.
Même, tout est fait, c'est parti maintenant. C'est la comète qui travaille toute seule. Tout le travail a déjà été fait. C'est maintenant, vrai. Nous recueillons les bénéfices.
Ouais. Sophie Bécherel à Darmstadt. Sophie.
Oui, je souriais en entendant Jacques Dordain que j'ai croisé ce matin parce que ici, très franchement, les ingénieurs et les scientifiques, sans vouloir manquer de modestie, sont quand même assez optimistes. C'est-à-dire que certes, pour l'instant, ça se passe bien, mais ils ont aussi énormément travaillé. Donc, ça leur semblerait logique de récolter le fruit de leur travail. Tout a été calculé, recalculé, etc. Jean-Jacques Dordain, lui, il faut l'avouer, est superstitieux. Autrement dit, il est extrêmement prudent et jusqu'à ce qu'on ait l'image, le panorama de la comète Churyumov-Gerasimenko, j'ai l'impression qu'il n'osera pas se lâcher, comme on dit. Donc il est dans une très très grande tension aujourd'hui au centre de Darmstadt de l'ESOC.
Nous avons une question dans le public avec un auditeur, je crois, qui a le micro.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
C'est Frédéric. C'est juste un petit détail. Je voudrais seulement savoir si la masse de Philae pourrait modifier tant soit peu la trajectoire de la comète.
André Braic.
Extrêmement peu. L'objet est tout petit, il a 4 km de dimension. Nous ignorons pour l'instant sa densité, mais on pense que c'est quelque chose d'assez ténu. C'est probablement pas du granit, évidemment. Et donc, sa masse est extrêmement faible. Et de toute manière, la trajectoire qui a été prévue de manière automatique tient compte de la densité estimée, de la masse estimée. Donc, il n'y a pas de modification majeure à attendre.
Philippe Hénarejos.
Oui, en fait, la densité, on la connaît, c'est 0,4, donc c'est
oui,
une densité.
Quand je ne la connais pas, il y a une barre d'erreur.
Il y a une barre d'erreur, mais bon, c'est quelque chose de très poreux. Alors, effectivement, il pèse 100 kilos, Philae, c'est pas grand-chose. Bon, on serait quand même une grosse surprise s'il cassait un bout de la comète. On ne croit pas que ça
non,
va arriver.
Quand on passe à côté d'un monsieur qui fait 100 kilos, on n'est pas immédiatement dévié, quoi. On peut passer en continuant sa route.
Ouais. Annie Chantal de Vassar-Regout.
Oui, j'avais envie de rebondir sur cette affaire de densité parce que c'est certainement le plus mystérieux aujourd'hui et ce qui a besoin d'être approfondi, si je puis dire, à propos de ces noyaux cométaires. Depuis longtemps, quand il y a eu, ça a commencé avec Giotto, Vega, avec la comète de Halley, et puis ça a continué avec les sondes américaines. Chaque fois que des sondes sont passées à proximité, mais à proximité, c'était toujours une centaine de kilomètres, d'un noyau cométaire, elles n'ont pas perçu de modification et on n'a pas pu déterminer la masse du noyau. Il y avait des méthodes indirectes par des forces non gravitationnelles qui permettaient d'estimer cette masse et en ayant une idée du volume, d'en arriver à des densités. Et dans les années 90, nous commencions tous à être persuadés, les gens travaillant sur les comètes, que la densité était inférieure à 1, ce qui est quand même assez bouleversant. Vous prenez un truc qui est fait avec de l'eau à l'état de glace, et puis aussi du dioxyde de carbone à l'état de glace, vous y ajoutez des poussières, des particules solides, et normalement, vous penseriez que vous allez avoir une densité supérieure à 1. Eh bien non, c'était toujours des densités entre 0,2 et 0,7-0,8. Ensuite, on a eu confirmation quand, par exemple, il y a eu la mission Deep Impact dont parlait André tout à l'heure, avec un impact, panache de poussière qui s'échappe. On a vu retomber le panache, on a pu en déduire un petit peu directement la masse. Même chose avec de la matière granulaire sur une autre comète, Hartley 2. Et là, depuis quelques semaines, on a effectivement une fort bonne estimation de la densité du noyau, mais de la densité globale du noyau, c'est-à-dire effectivement, comme il s'est dit à l'instant, de l'ordre de 0,4, 0,4 plus ou moins peut-être 0,05, quelque chose comme ça. Et ça veut dire que c'est incroyablement poreux. On n'a pas encore compris quelle est vraiment la structure interne des comètes. Et c'est une question essentielle, évidemment, parce que qui dit comprendre la structure interne dit comprendre comment elles se sont exactement formées. Et précisément, une expérience française majeure à bord de Philae, qui s'appelle Concert, est destinée à, par une sorte de tomographie de l'intérieur du noyau, avoir plus d'idées sur ce qu'est la permittivité et par là même la porosité, la structure interne de ce noyau. Aujourd'hui, précisément, on ne sait pas encore si les deux parties se sont formées au même endroit ou si ce sont deux petits noyaux qui sont passés l'un près de l'autre, très loin du Soleil, et qui se sont attirés simplement par leur gravité mutuelle. Et donc, connaître cette structure interne, c'est vraiment remonter à la formation du système solaire et par là même mieux comprendre la formation des systèmes planétaires stellaires. Et je dois dire qu'au-delà des images qu'on espère avoir très bientôt, il va y avoir toute une collection d'expériences sur Philae, de même qu'il y a toute une collection d'expériences sur Rosetta, et qui vont poser de nouvelles questions et qui vont demander de l'approfondissement. Je ne voudrais pas vous décevoir, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on n'aura pas toutes les réponses dans 3 jours, ni même dans 3 semaines. Et c'est même extraordinaire, parce que là, il y a du travail scientifique qui va être fait, à la fois au niveau, j'ai envie de dire, archéologie du système solaire et au niveau compréhension de mécanismes physiques, de mécanismes chimiques dans des conditions qui n'ont rien à voir avec celles que nous connaissons sur Terre.
Allez, Joël Deronet nous a rejoint, parce qu'il y a beaucoup de monde ici à la Cité des Sciences. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, on espère, vous qui êtes amateur de surf, que Philae ne va pas justement surfer sur la comète et repartir d'un bond sans pouvoir la rattraper, mais que véritablement le robot va s'ancrer sur cette comète. Ça vous fascine, vous aussi. Je disais, on a tous des yeux d'enfant aujourd'hui, mais c'est le cas, vraiment.
Alors, je suis surtout passionné par les questions concernant l'origine de la vie. J'ai écrit des livres dessus. Et effectivement, une des grandes surprises des 30 dernières années, ça a été de découvrir des molécules organiques dans l'espace, des molécules assez complexes finalement. On pensait qu'il y avait des molécules très simples, mais il y a des acétones, des aldéhydes, des alcools. Ça pourrait être les briques des protéines, des acides aminés ou les briques des acides nucléiques. On a su les fabriquer au laboratoire en dehors du vivant. C'était les fameuses expériences qui datent maintenant d'il y a beaucoup de temps de Stanley Miller, mais ensuite ça a été refait dans de nombreux laboratoires. Donc, si on trouve ces molécules organiques sur la comète, ça voudrait dire que les molécules sont très abondantes dans notre système solaire et même ailleurs. Et donc, ça repose la question de l'origine de la vie dans l'univers. Ça ne veut pas dire que les comètes ont ensemencé la Terre. Ça, c'est une autre théorie.
C'est quand même une hypothèse sérieuse.
C'est que, au tout début de la formation du système solaire, les planètes géantes que sont Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune se sont formées avant les autres, parce qu'elles ont ramassé tout l'hydrogène et l'hélium qui n'existaient plus au niveau de la Terre. Et avec ça, il y a un phénomène de résonance. La résonance, c'est la même chose que quand vous poussez votre cousine sur une balançoire. Si vous la poussez avec la bonne cadence, la balançoire prend une amplitude infinie, la cousine se met à hurler. Eh bien, les planètes se mettent à se perturber mutuellement. Ça met une pagaille dans tous ces planétoïdes, ces comètes, ces astéroïdes énormes. Et la Terre, 800 millions d'années après qu'elle soit apparue, a été bombardée de manière massive par des comètes, des astéroïdes. Nous avons la trace sur la Lune. Et sur Terre, évidemment, il y a eu le même bombardement. Et la grande question qui se pose, est-ce que c'est ça qui nous a apporté la matière première qui donne les océans et la vie, ou bien est-ce que c'est ça qui a fracturé la croûte terrestre qui a permis aux éléments de sortir? À mon avis, c'est les deux. Un petit peu de l'intérieur, un petit peu de l'extérieur, et ça donne quelque chose d'aussi bien que votre émission sur France Inter.
Voilà, et c'est pour ça qu'on vous aime, André Braïc, c'est quand vous nous parlez de notre cousine sur sa balançoire. Voilà, ça nous rappelle plein de souvenirs.
Ça me rappelle à moi beaucoup de souvenirs agréables.
Philippe.
Oui. Ce qui est crucial pour avoir ces réponses-là, c'est effectivement Philae, il a une foreuse qui va aller forer à 25 cm sous la surface. Et ça, c'est important parce que c'est comme si vous aviez un glaciologue qui voulait étudier un glacier, mais qu'au lieu d'avoir le glacier lui-même, il se retrouve avec l'eau ou la vapeur d'eau. C'est ce qu'on a fait avec les autres instruments qui ont regardé la chevelure des comètes, qui ont vu ces molécules, effectivement, mais qui étaient déjà cassées, altérées par le rayonnement solaire auquel elles étaient exposées. Là, on va aller les chercher de manière native, protégée sous la croûte de la comète et les analyser sur place. C'est une première et c'est très important.
Allez, très vite, Joël Deronet, parce qu'on est à l'issue de l'émission.
Ces molécules sont cassées, comme on vient de le dire, par les rayonnements ultraviolets. Elles se recombinent entre elles. Et donc, il y a une chimie de l'espace qui est en train de se produire par recombinaison. Et ça, c'est très intéressant pour l'origine de la vie.
Allez, Florence, un dernier coup d'œil sur les réseaux sociaux avec le hashtag Pose-toi Philae.
Oui, il y a deux choses qui se dégagent. En fait, il y a beaucoup d'internautes qui ne s'intéressent pas aux sciences en règle générale et qui se prennent au jeu. Ils en sont les premiers surpris. Donc, c'est plutôt agréable à voir. Et beaucoup aussi qui disent que cet événement est une revanche sur Apollo 11 pour leur génération. Donc, voilà, c'est vraiment un événement incroyable qui se passe.
Il n'y a pas de revanche, on le disait tout à l'heure.
Voilà. Moi, je me souviens, j'étais au milieu du désert syrien où à ce moment il se passe des horreurs. Au moment où ça s'est posé sur la Lune, c'était une aventure extraordinaire. Nous continuons et j'ai envie de dire, le 21e siècle sera spatial ou ne sera pas.
Voilà, c'est une belle conclusion, André Braïc, pour La Tête au Carré en tout cas, puisque Sophie Bécherel, on poursuit évidemment cette exploration spatiale et l'arrivée de Philae sur la comète tout au long de la journée avec vous et évidemment le moment crucial dans 2h30 à peu près.
Pas et dès que j'ai des informations, je vous les donne. On fait des points toutes les heures.
Merci beaucoup. Merci à votre invité Annie Chantal Levasseur-Regout. Philippe Hénarejos, évidemment, on peut suivre tout ça également sur le site de Ciel et Espace.
Oui, absolument. On va mettre toutes les images qu'on aura, même si on les a volées. Enfin, nous, on ne les vole pas. Mais...
les captures d'écran.
On est
obligé de photographier maintenant les ordinateurs. Et puis ici, à la Cité des Sciences, donc pour le public.
Il y a trois écrans.
Hein, Joël de René, on peut accueillir tout le monde.
Il y a trois écrans live dans le grand hall, dans l'auditorium, ouais. Dans la salle, salle Louis Lumière.
Les dessins de cet événement avec Aurélie Bordenave sur franceinter.fr, page spéciale sur le site évidemment de France Inter. N'hésitez pas à y aller, vous avez toutes les vidéos, le direct. Merci beaucoup André Brahic, Joël de René, Florence, Philippe et Fabrice Drouel qui nous a rejoint en studio, avenue Kennedy. Bonjour Fabrice.
Bonjour Mathieu.
De quoi parle-t-on avec vous dans Affaires Sensibles dans un instant ?
Du génocide au Rwanda en 1994, il y a donc tout juste 20 ans. Et nous en parlerons avec notre invité également, Marcel Kabanda, historien franco-rwandais, président de l'association Ibuka, dont l'objectif est d'honorer la mémoire des victimes du génocide.
Et merci au public ici à la Cité des Sciences pour cet accueil extrêmement chaleureux. Les infos dans un instant.